Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Evelyne Rocheteau, Éric Saillard et Raphaël Saillard, architectes. Bonjour.
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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte nantais. Evelyne et Éric, vous êtes les fondateurs de l'agence ARS, agence créée en 1992, c'est bien ça?
Exactement.
Vous fêtez vos 30 ans d'agence?
Exactement.
Et Raphaël, donc, est votre fils, et après avoir fait un séjour au Japon chez Kengo Kuma, vous êtes prêt, Raphaël, et a priori, à prendre la relève avec Grégory Evest?
C'est ça.
Une histoire de famille, mais pas seulement. Vous insistez sur le fait que chacun de vos projets est unique. Vous avez œuvré dans le Grand Ouest, beaucoup à Nantes, sur des sujets très techniques, centres de recherche, hospitaliers, universités, équipements divers, habitats. Aujourd'hui, vous vous positionnez sur la France entière. Votre capacité à gérer les flux, l'immatériel est reconnue. Vous allez nous préciser tout ça. Commençons par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse? Où se sont ancrées vos envies d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, Evelyne.
Alors, eh bien écoutez, moi j'ai une jeunesse un peu itinérante. En fait, je me suis beaucoup déplacée dans mon enfance entre Paris et la province. Donc tous les ans, je changeais d'établissement, changeais de lieu de vie, de cadre de vie, etc. Et c'est vrai que c'était à chaque fois des découvertes de nouveaux espaces. Et c'est vrai que j'avais toujours été beaucoup attachée à la discipline de l'art, des arts plastiques. Très vite, j'ai voulu m'orienter dans ce domaine des arts plastiques. Après, c'est vrai que à la sortie du bac, les circonstances d'entrée d'accès aux différents établissements m'ont pas permis d'y accéder tout de suite. Donc, j'ai une autre discipline qui m'intéressait beaucoup, c'était les sciences humaines. Et donc, j'ai fait une année de psychologie. Et c'est vrai que cette année m'a beaucoup plu aussi. Avec ces deux disciplines croisées, c'est ce qui m'a amené en fait à faire l'architecture. J'aimais bien le monde de l'art, j'aimais bien la nature humaine. Et l'acte de construire me titillait beaucoup. Et voilà, donc je suis rentrée à l'école d'architecture de Nantes.
Mmh.
Voilà.
Éric.
Alors, moi je suis venue à l'architecture non pas par la grande porte, mais par la petite fenêtre. C'est-à-dire que je n'étais pas ce qu'on appelle un élève brillant à l'école. J'étais assez agité, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle la dyslexie. J'étais pas du tout adapté au milieu scolaire. Il a fallu très jeune que je m'oriente professionnellement. Donc à 14 ans, que je décide d'un métier. À 14 ans, vous connaissez pas forcément tous les métiers qui puissent ensuite se présenter à vous. Et j'ai eu, peut-être, en y réfléchissant, une émotion assez forte quand j'avais peut-être 13 ans. La première fois que je suis venu à Paris, le bâtiment de Beaubourg était en train de se finir. J'étais dans un car avec d'autres élèves et j'ai eu cette émotion forte et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien être architecte. Alors, comme je n'avais pas forcément le bon parcours pour y arriver, je me suis orienté vers une voie professionnelle. Puisqu'on m'avait dit qu'on pouvait rejoindre des écoles d'architecture et cette formation par ce biais. Et donc j'ai fait l'école de Nantes en architecture. Et finalement, tout s'est bien passé durant le déroulement de mes études d'architecte.
D'accord. Alors, Raphaël.
Alors moi, c'est un peu particulier parce que l'architecture, c'est vrai que j'ai toujours un peu été baigné dedans, sans vraiment savoir que c'était de l'architecture, parce que ça a toujours été présent, je pense, dans ma vie, par mes parents. Bizarrement, j'ai toujours un peu eu cet effet répulsif de l'architecture. Quand j'étais jeune, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai même des souvenirs de cours de perspective, donc avec mon père, assez traumatisant. C'est vrai que je ne dessinais très peu, j'étais plutôt un geek, très branché sur l'informatique et les jeux vidéo. Et puis à 18 ans, donc c'est vrai que comme le dit Eric, il faut prendre un choix pour ses études. Je voulais faire du commerce, par je pense pure camaraderie, beaucoup d'amis qui étaient dans ce cadre-là. Et puis j'ai réfléchi en fait à des voies possibles en me disant que bon, l'architecture finalement, pourquoi pas. C'est vrai qu'on avait des super revues El Croquis à la maison, et je me souviens d'avoir bouquiné une revue d'Herzog et de Meuron, où je me suis dit quand même que de pouvoir dessiner comme ça des environnements pour les gens dans la ville, avec un héritage quand même culturel, c'était quelque chose de fascinant. Donc j'ai eu la chance d'être pris en architecture, et puis après je suis tombé dedans.
À Nantes ?
À Nantes, exactement, et complètement fasciné. J'ai redécouvert cette ville d'ailleurs que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout, à travers l'école, et donc des parcours, les nouveaux projets. Donc on avait la chance d'être au cœur du projet urbain de l'île de Nantes, qui a vraiment, je pense, révolutionné aussi notre façon de voir comment c'est la ville avec l'existant, comment on vient recomposer aussi des espaces qui ont été délaissés, ou parfois des espaces industriels. Et je pense que j'ai vraiment trouvé une vocation, en tout cas. Je ne pensais pas un jour être bon élève, ou du moins m'investir dans mes études autant que je l'ai fait en architecture.
Alors, comment a commencé vos activités respectives d'architecte ? Séparément, tout de suite l'agence, comment ça s'est passé ?
Au départ, en tout cas, ça s'est passé séparément. Chacun a fait un petit bout de chemin. Pour moi, j'ai commencé à très vite, je n'ai quasiment pas travaillé en agence. En fait, dès la sortie de l'école, j'avais vraiment envie de faire des projets pour être maître de mes projets. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contact avec le client. J'avais eu l'occasion de travailler dans un petit cabinet d'architecture d'intérieur qui me faisait entièrement confiance, et j'avais beaucoup de contacts avec justement la clientèle qu'on n'appelait pas maître d'ouvrage dans ce cabinet-là. Et c'est vrai que de pouvoir apporter une résolution spatiale, d'apporter, de travailler le projet en direct, et de pouvoir justement apporter à chaque fois quelque chose de plus, de nouveau, auquel les gens ne s'attendaient pas vraiment, était pour moi à chaque fois une réjouissance. Et c'est ce qui m'a donné, je crois, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de poursuivre. Et donc de petits projets. Ensuite, j'ai rencontré Eric, et ensuite on a constitué l'agence. Voilà.
Mais vous êtes rencontrés à l'école ou...
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, on s'est rencontrés après l'école. Par hasard.
J'ai dragué Evelyne sur les boulevards. Moi.
Voilà, exactement.
Sur les boulevards nantais.
Sur les boulevards nantais. Ou dans les cafés nantais, on va dire. Quand nous sommes racontés, nous ne savions pas que nous étions architectes l'un et l'autre.
D'accord. Et donc, votre activité d'architecte, Eric ?
Alors moi, après ce parcours de professionnel et cette école d'architecture, donc j'ai découvert ce qu'était le monde de l'imaginaire, puisque moi j'avais une formation plus technique, constructeur. Et au fil des études et des années d'apprentissage, j'étais dans un monde vraiment de peut-être trop imaginaire. Donc je me suis attelé à travailler chez des architectes pendant mes études et la fin, pour avoir un apprentissage de développement de projets, et puis ensuite pour faire du concours. Donc j'ai travaillé dans des cabinets d'architecture à Nantes, j'ai travaillé aussi dans un cabinet à Paris chez Dominique Perrault. Je n'ai pas travaillé très très longtemps en agence, mais je pense que c'était quand même très formateur. Et donc, avec Evelyne, on a décidé de s'installer. Alors, c'était très, très simple, hein. La première expérience que j'ai de mon travail, c'est d'aller voir un maire. En l'occurrence, j'ai ce souvenir. C'était une petite ville vendéenne, près de la Roche-sur-Yon, Aubigny. Et on postulait à des concours. Et j'avais pris mon bâton pèlerin. Je savais qu'il voulait faire un complexe sportif. On n'avait quasiment aucune référence, sauf des concours un petit peu d'étudiants ou... On avait été lauréat de certains concours ou primés, donc on avait ça comme book. Et ce maire, donc, j'étais allé voir le terrain, j'avais réussi à décrocher un rendez-vous, et je sais pas, je lui ai raconté une idée de projet sportif qu'il pourrait avoir sur sa commune. J'étais assez jeune, hein, j'avais moins de 30 ans, et finalement, il nous a retenus comme équipe, et on a gagné ce concours.
Et à la même époque, en fait, quand Eric démarchait, moi je démarchais aussi. On a fait pas mal d'aller à la rencontre des gens, en fait, pour accéder à la commande. Parce qu'on était, je dirais, un peu les... Enfin, on n'avait pas, pas beaucoup de références. Et c'est vrai que c'est au contact des gens qu'on a réussi à les convaincre de nous retenir sur les concours. Et quand on est retenu sur cette salle de sport, on était retenu en même temps sur un ensemble de logements sur Nantes. Donc, on avait les deux concours à faire en même temps. On n'était que deux, on avait quatre bras. Et on s'est dit, bah, challenge, très bien, super, on le fait, quoi. Et c'est vrai que...
Vous avez charreté ensemble.
Ah bah, c'est pire que charreté. C'était c'est pas une nuit blanche, c'est des nuits blanches. Et on a charreté vraiment tous les deux voilà, pour faire les projets. Et bon, on avait dû recruter un dessinateur, je crois, pour nous aider. Et les deux concours, c'était le rendu le même jour. Et on a eu vraiment la chance, je dirais, incroyable de gagner ces deux concours-là. C'est ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Et ensuite, l'agence voilà, démarrait. Et puis, ça nous a surtout aussi beaucoup donné de confiance en nous pour développer cette agence, quoi.
Voilà. Voilà. Evelyne était plus sur des constructions de maisons avec des budgets très intéressants et son travail, je trouve, était de très grande qualité. Mais j'étais persuadé, moi, qu'il fallait passer par le biais du concours pour accéder à des commandes intéressantes et non seulement travailler sur le concours, mais aussi sur des programmes très différents. C'est-à-dire qu'on s'efforçait de candidater, et on s'efforce toujours de candidater, à des programmes très différents pour par gourmandise. Moi, je suis toujours très heureux quand on m'apprend qu'on est retenu dans telle ville ou tel site, sur tel type de programme. Donc, c'est une forme de, voilà, de jeu. Et on a commencé aussi à nous confier des projets très complexes. Donc, très vite, on s'est dit, mais zut, j'espère que nos maîtres d'ouvrage ne nous prennent pas pour MacGyver, hein, parce que on nous donnait, par exemple, à faire des projets comme des laboratoires de 8000 m² quand vous n'avez quasiment pas encore construit, et pas n'importe quel laboratoire, il y avait un bâtiment qui existait. On nous a fait comprendre qu'il fallait, en tant que jeune, faire une proposition forte. Et donc, on avait décidé d'envelopper le bâtiment existant de nouveaux laboratoires avec les laboratoires existants qui continuent à fonctionner. Et j'ai le souvenir, d'ailleurs, du jury, puisqu'à l'époque, on présentait les concours. Evelyne était enceinte de Raphaël et de son frère, puisque c'est son frère jumeau. Et moi, j'étais avec Evelyne et son gros ventre devant un jury et je leur expliquais la molécule, le centre de la molécule. Enfin, c'était vraiment des exercices assez compliqués, comme l'extension d'un bassin d'Essé-des-Carènes. Vraiment, un bassin d'Essé-des-Carènes, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Pour se renseigner sur les machines qui font des vagues. Bon, c'est voilà. Très vite, on nous a mis sur des exercices architecturaux atypiques et complexes.
Alors justement, votre apprentissage au démarrage, c'était vraiment dans quel domaine ? Qu'est-ce que vous avez fait au tout début ?
Moi, j'ai fait un apprentissage qui s'appelle le génie civil. Ouais. Donc, je savais d'ailleurs, pendant mes études d'architecture, souvent on venait me voir pour « mais comment est-ce que je peux faire tenir ça ?» je savais, avant d'être dans mes études d'architecture, ce que c'était que un tirant, une charpente en bois, du métal, ce que veut dire qu'un mur flambe. J'avais cette connaissance constructive. D'ailleurs, je pense que souvent encore à l'agence, et Raphaël, souvent vient me voir et me dit « Mais Eric, comment est-ce que... Tu crois que ça peut tenir ?» Alors, tant qu'il y a des câbles qui peuvent le suspendre ou des poteaux qui peuvent le tenir, je lui dis « Écoute, si t'as rien dessous, t'as qu'à mettre des aimants, hein, un au-dessus, un en-dessous, ça sera suspendu. » Voilà, on vient un peu me chercher comme le constructeur qui travaille avec les ingénieurs.
D'accord. Avec donc une compréhension vraiment fine de la technique et de la matérialité et des matières.
Tout à fait.
Mm-hmm. Raphaël, comment vous commencez à exercer ?
Alors, en fait, moi, j'ai très vite, avec des amis de l'école de Nantes, on a fondé un collectif qui s'appelle S'il te plaît. Et en fait, assez rapidement, on a commencé à faire des projets, je dirais, pour voilà, des concours d'idées, des appels à manifestations. On a fini par faire des festivals d'architecture à Montpellier, notamment le Festival des Architectures Vives, et des biennales d'art au fin fond de la Russie. C'était des expériences qui ont été assez formatrices sur la volonté, je pense, de faire des projets vraiment par nous-mêmes et vraiment de mener à bien les réalisations, de les construire. Et donc, après ça, en fait, je pense qu'une fois qu'on a goûté à ce côté un peu indépendant et d'entreprendre, on n'a pas envie de le lâcher. Donc, j'ai fait mon parcours en agence. Donc, comme vous l'aviez dit, je suis allé travailler au Japon chez Kengo Kuma, avec qui j'ai une grande sensibilité architecturale. Je pense que le Japon aussi est un pays assez fascinant pour les architectes parce qu'ils ont cette différence d'approche et de vision, rien que par le langage et aussi bien des matériaux, mais le langage parlé aussi, définition des espaces, etc. Donc,
c'est une terminologie qui est plus liée à l'imaginaire ?
Il y a, je pense, même dans la structure, je dirais, mentale de leur vision de l'espace, qui est différente de la nôtre, où je pense qu'il y a des livres qui parlent un peu de ça. Je pense notamment à Roland Barthes ou aussi à l'Éloge de l'ombre, où en fait, ils ont une façon exactement très poétique et sensible, surtout de voir les espaces. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai travaillé aussi pour Manuel Gautran, donc dans un autre registre, mais que voilà, je trouve une architecte très engagée, vive d'esprit et qui fait vraiment des bâtiments vraiment heureux. Et je, ouais, je la salue d'ailleurs.
Oui, on l'a reçu donc, comme d'archi au mois de décembre. Mais il y a une force plastique dans son travail. Mmh. Ouais, il y a beaucoup de puissance, en effet.
Et donc c'est vrai que moi, après, j'ai aussi suivi des études d'urbanisme à Londres, parce que, en fait, dans toutes mes études d'archi, j'ai continué à aller voir un peu, je dirais, les franges de l'architecture, donc que ce soit au niveau de l'art ou au niveau du design, et donc également de l'urbanisme. Et c'est quelque chose que je viens aussi rapporter à l'agence, donc notamment dans un concours qu'on développe actuellement, où on est en charge de la coordination de l'ILO, d'une grande cité éducative à Sartrouville.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? On commence par vous, Evelyne.
Oui, moi je répondrais que oui, en fait, parce que c'est vrai que moi j'avais un esprit peut-être moins technique, mais dans ce côté de relation avec les maîtres d'ouvrage, de relation avec les entreprises, tout ce côté humain m'intéresse beaucoup et m'a amené tout le temps des projets, en fait, à chaque fois, de découvrir, en fait, des nouvelles intentions, des nouveaux centres d'intérêt, et à chaque fois de découvrir différents métiers de tous les bâtiments que nous avons pu réaliser, et à chaque fois une richesse, en fait, de découverte. La richesse du métier est quand même de rencontrer toujours de différents univers. Quand vous passez de la salle de sport et le lendemain, vous passez au centre hospitalier ou à du logement ou à des centres culturels, des médiathèques, etc. À chaque fois, on découvre des nouveaux univers et c'est ce qui est passionnant, c'est de découvrir justement la façon de travailler de toutes ces activités-là. C'est très intéressant.
Éric ?
En fait, moi, je pense avoir accompli ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment m'exprimer, concevoir des bâtiments et les construire. Mais en fait, quand j'ai quitté l'école d'architecture, que j'ai commencé à exercer chez d'autres architectes, je me suis aperçu que je m'étais complètement fourvoyé dans l'idée de ce métier. C'est-à-dire que, d'autant plus lorsqu'on travaille sur des programmes de concours, pendant toutes mes études, moi, j'avais l'impression qu'on était hors sol, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de programme, on faisait nous-mêmes nos programmes. Ça finissait par ressembler plus à de la sculpture que finalement une construction avec un usage et des usagers. Et puis, le site aussi, on nous laissait peut-être trop de liberté, je ne sais pas, mais il y avait des projets où on créait des folies, on allait les appeler les astéroïdes, on créait ça comme des lignes, comme des murs de Berlin à travers une ville. Des choses que, effectivement, je n'ai jamais pu rencontrer dans ma carrière de professionnel, où bien souvent, on a un site. Moi, j'allais tout le temps dans mes projets d'étudiant. Je débordais, quoi. Je débordais sur le terrain d'à côté. Je n'arrivais pas à rester en place. Mais globalement, voilà, je rejoins Evelyne. Moi, j'ai réussi à construire, je pense, pas mal de bâtiments. Je les trouve tous à mon goût. Hein, donc, voilà, j'ai accompli ce que je pensais faire.
Raphaël.
Donc c'est, je pense, un peu tôt pour moi, sachant que quand j'étais étudiant, j'avais vraiment envie quand même de construire, enfin d'être architecte. Et c'est vrai que d'être entouré, en fait, au-delà de mes parents, mais par d'autres personnes qui sont dans le monde de l'architecture, c'est vrai que j'avais peut-être une attente qui était un peu différente de mes camarades. Et donc j'ai peut-être assez vite eu envie, je dirais, de comprendre un peu tous les mécanismes, les rouages de l'architecture qui, comme l'a dit Eric, sont en fait bien plus globaux et bien plus complexes que ce qu'on peut apprendre à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui même, je me rends compte que le monde de l'architecture est encore plus vaste que ce que je me disais en étant étudiant, avec vraiment des facettes entre tout ce qui est la vie d'agence, l'administration, les façons de travailler avec les bureaux d'études, tous les acteurs qu'il peut y avoir dans ce métier. En fait, on découvre à chaque fois des métiers, des connaissances qu'on ne connaît pas. On est très enrichi de par tous les gens qu'on rencontre, du côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, artisanat. C'est même quelque chose qui est allé au-delà, je pense, de ce que j'espérais du métier de l'architecte.
Et de reprendre l'agence de ses parents, vous estimez que c'est une chance, une opportunité? Il y a des freins, peut-être il y a toute une facture derrière vous. Donc il y a un moment où il y a des lignes à poursuivre et des choix aussi à opérer, c'est ça?
Je pense que je suis très, très chanceux, en fait, d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir, je dirais, m'appuyer aussi sur une maturité de réflexion, d'expertise, et à la fois aussi d'avoir la liberté de pouvoir proposer des choses. Et en fait, quand on est jeune architecte, j'ai remarqué que ça prenait un certain temps avant d'être volontaire dans ses idées, d'assumer en fait peut-être ses choix. Et là, je pense que j'ai un cadre qui est très propice en fait à proposer des choses nouvelles, à aller explorer des nouvelles pistes, et en fait avec des projets qui sont quand même d'une certaine ampleur. Donc on a un impact qui est véritable, et je pense que la transmission d'agence, en tout cas, et donc la relève, se passe aussi beaucoup par l'écoute, l'échange, parfois la confrontation, et ça vient vraiment enrichir en tout cas la pratique de l'architecture. Après, c'est quelque chose qui n'était pas, je dirais, dessiné d'avance. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. On m'a jamais poussé à vraiment faire de l'architecture ou à reprendre l'agence, etc., ou à m'impliquer dedans. Ça a toujours été plutôt, est-ce que tu veux pas filer un coup de main sur un projet? Et puis, s'il y a l'opportunité de travailler ensemble sur tel ou tel sujet, et puis ça s'est un peu fait naturellement, on a trouvé nos marques, et maintenant on commence, je dirais, tout juste cette aventure, mais qui s'annonce très, très,
très riche.
Très riche,
ouais. Est-ce que vous sentez des différences générationnelles vraiment fortes? Comment ça se goupille, tout ça?
Moi, je pense que, oui, il y a une différence, surtout de s'approprier le projet, par exemple. Parce qu'aussi, on est conditionné parfois par la commande qui est différente, qui a évolué aussi, qui évolue tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'approprie le projet d'une façon, nous, qui va être plus par rapport au site, par rapport au projet lui-même, etc. Et peut-être que quand on travaille ensemble, c'est plutôt avec tout le numérique aujourd'hui qui vient un peu apporter du plus à ça et qui est forcément plus une approche de projet un peu différente.
Je rebondirais même, c'est vrai que comme vous l'aviez dit, il y a beaucoup de je pense, d'architectes, où il y a eu des familles d'architectes qui ont œuvré en France, même dans le monde, avec des outils qui étaient assez similaires et des temps de projet, je pense, qui étaient aussi, je dirais, dans une certaine lignée. Là, avec donc mes parents, on a quelques années d'écart, et déjà, au niveau des outils, typiquement, on a mes parents qui travaillent beaucoup au calque et au crayon. Moi, je suis presque exclusivement en surnumérique. Au niveau des conceptions des projets aussi, même s'ils me disent que ça a été toujours les premiers écologistes, nous, je pense que c'est une conviction qu'on a ancrée en nous au plus profond, auquel on est vraiment sensible. Enfin, toute ma génération, je pense.
C'est chevillé au corps, je le disais dans le précédent podcast, vraiment.
Parfois, on aborde le projet aussi plus par, je dirais, son flux de matériaux, son impact carbone, sa gestion de l'environnement, de la biodiversité, comme étant des variables vraiment structurantes du projet. Chose qui... Peut-être Eric...
Oui, alors, en fait, ça n'a pas radicalement changé en 30 ans. Faire un bon projet, toujours un bon projet. Je pense que la petite différence que je pourrais ressentir, moi, c'est parce qu'il y a toujours un site, il y a toujours une fonction, il y a toujours des usagers, il y a toujours de la matérialité, il y a toujours des parties architecturaux. La petite différence, c'est que quand on a commencé avec Evelyne, surtout sur les marchés publics et les concours, un maire était désireux d'avoir une image forte pour son projet. C'est-à-dire que quand on faisait une médiathèque, quand on faisait un complexe sportif, un bâtiment public, son marché ou des bâtiments de cette nature-là, on sentait une volonté de vouloir faire futuriste, moderne, qu'il y ait une image forte. Peut-être qu'aujourd'hui, on demande au projet d'être beaucoup plus vertueux, d'être plus rigoureux, d'avoir moins peut-être de force d'image, mais une force intrinsèque aussi dans sa composition de matériaux, de recyclage. Alors, ça va être un enrichissement avec Raphaël.
Hein, oui. Voilà. Une continuité aussi, une continuité un peu différente.
C'est sûr, et c'est intéressant de pouvoir travailler avec des gens qui ont de l'expérience déjà dans le bâtiment, l'architecture, et de pouvoir insuffler des nouvelles idées. Je pense que c'est ça aussi qui est assez fort dans le travail entre générations. Je pense que c'est important que les jeunes ne soient pas seuls bâtons en avant et qu'ils s'appuient aussi sur le savoir des générations passées.
C'est une parole sage.
On ne l'a pas payé, hein, pour comprendre.
Bon. Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ?
Alors, l'histoire de nos projets, c'est, je pense, au départ, vouloir créer de l'émotion. Et nous partons en général d'un site et de la fonction. Et comment est-ce que la fonction peut, avec ce site, aboutir à un parti architectural ?
Sur les projets, on essaie toujours d'avoir un fil conducteur. Et je pense que dans un projet d'architecture, c'est important d'avoir ce fil conducteur et de le tenir jusqu'au bout. Parce qu'un projet d'architecture, c'est long, parfois il y a beaucoup d'intervenants, et c'est vrai qu'il faut toujours garder le fil de l'histoire, en fait. Et c'est vrai que ces thématiques que l'on a développées, qu'on développe sur chaque projet, pour nous, c'est un peu... on le fait peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que ça nous permet, en fait, de conserver notre projet, de toujours garder le sens du projet, de l'idée qu'on veut développer au départ.
Je vais vous donner un exemple de deux programmes identiques et deux partis architecturaux radicalement différents. Il s'agit de projets universitaires, donc c'était la réalisation d'amphithéâtres en extension de la fac de médecine à Angers pour un premier projet, et la création d'amphithéâtres aussi, plusieurs amphithéâtres pour la faculté de droit à Nantes. Et le programme est le même, donc qu'est-ce qui fait qu'à partir du même programme, plusieurs amphithéâtres, un espace de déambulation pour les étudiants, on arrive radicalement à des projets différents. C'est, le site qui nous a guidés, à savoir, par exemple, pour la faculté de droit à Nantes, il s'agissait d'un bâtiment que l'on trouvait remarquable, de Louis Aretsch, qui s'inscrivait sur une colline, on appelle ça la colline du sens. Et donc, déjà, nous, de réaliser deux gros amphithéâtres pour ce bâtiment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle orientation ? Quelle partie on prend ? On a décidé de les enfouir dans une colline et de faire émerger la toiture de ce bâtiment. Excusez-moi de la métaphore, hein, c'est un peu premier degré, mais vraiment l'image d'un jardinier avec sa bêche qui découpe un carré de pelouse et qui tire sur l'herbe pour la soulever du sol. Donc voilà, c'est un projet qui se fond complètement avec l'existant. Et d'ailleurs, plus vieilli, plus il se fond, puisque les deux bâtiments sont en béton brut. Et puis l'autre projet de la faculté de médecine et ses amphithéâtres, eh bien, c'est radicalement différent. C'est-à-dire qu'on était avec un terrain en pente assez abrupt, et l'accès à ce bâtiment se faisait par le bas de la pente. Et là, nous avons décidé de mettre en avant la forme de ces amphithéâtres. Parce qu'un amphithéâtre, la forme est déjà un peu conçue. On a un gradinage, on a une scène, on a une certaine volumétrie, une hauteur. Donc là, c'était de mettre en avant cette sous-face de gradinage qui part en avancée vers le bas de la pente. C'est-à-dire qu'on a toute la lecture, ils sont suspendus. C'est aussi une construction un peu complexe, suspendue au-dessus du vide. Et ces trois amphithéâtres se lisent comme des poupées russes. Vous savez, les poupées russes ressemblent, elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres. Et donc, on a là quelque chose qui est le démarrage de comment lire la fonction d'un bâtiment en façade. La volonté de lire la fonction du bâtiment, ça a été parfois jusqu'à créer des bâtiments, comme par exemple des bâtiments de recherche, ou dans le domaine de la mer, on est arrivé même à reproduire, parce que le site, là aussi, invitait, avec un regard lointain possible sur ce bâtiment, de reproduire des vagues. Voilà, on a cette démarche, des fois, de pouvoir lire la fonction, qu'elle se mêle, que le parti architectural vienne du site. Et après, on a des petits... un savoir-faire qu'on a acquis quand même au fur et à mesure des années, c'est notamment des thèmes comme l'écrin. Ce que j'appelle l'écrin, c'est par exemple, c'est de mettre en évidence un accès ou une partie du projet. C'est par exemple sur des bâtiments comme le complexe de Luçon, où ce sont des gros volumes, des salles, plusieurs salles de sport, donc avec des volumes cubiques. Et c'est l'entrée qui est travaillée de façon... importante, avec des creux, des bosses, des matériaux brillants, attirants, et qui magnifient l'entrée dans ce bâtiment. Un autre élément important aussi, qu'on a pris l'habitude sur différents projets de travailler, c'est la lumière vue sous son angle de son reflet. Pour vous imaginer un peu ça, c'est par exemple sur un bassin d'essai des Carènes, pour l'école centrale de Nantes, donc une extension d'un bassin de, je crois, 200 mètres de longueur, pas de fenêtre, comment exprimer le thème de ces machines qui font des vagues. Donc, on a décidé, sur 100 mètres de long, de mettre en œuvre un béton qui est architectonique, non pas d'une matrice, c'était pas une matrice réclis, c'était une matrice qu'on a inventée avec un préfabricant, donc en forme de vague. Et pour donner cette idée de l'eau qui se trouve derrière et de ces vagues, on a mis une verrière avec du verre donc bleu. Et avec l'orientation de la lumière, donc ce bleu se reflète de façon plus ou moins profonde sur ces vagues. Donc on a un effet un peu de lecture de marée, on va dire. Voilà, ça c'est des choses aussi qui nous intéressent beaucoup. Des lames pare-soleil, par exemple, verticales, quand on est avec des orientations délicates, où on a des parties réfléchissantes pour capter la lumière et augmenter la luminosité à l'intérieur d'un espace, ou au contraire, ces lames sont plus mates pour au contraire se protéger de la luminosité. Donc ce côté lumière indirect, on va dire, était pour nous important. Et puis, un autre sujet qui est essentiel, c'est que quand on réfléchit, quand on sait qu'on n'est pas loin du parti, que ça nous plaît, qu'on a le fameux frisson de l'émotion qu'on veut rendre, à un moment donné, c'est de réfléchir aux matériaux. Donc, les matériaux, donc nous, on aime bien des matériaux qui révèlent un peu ce qui va se trouver à l'intérieur du bâtiment. Alors, des fois, c'est complètement abstrait. On va oublier que ça représente ça. Mais par exemple, quand on travaillait sur des laboratoires, sur le site de Brest pour l'IBRBS, qui est un bâtiment qui regroupe des lieux universitaires et puis de chercheurs, On savait que les chercheurs travaillaient sur l'ADN, les éléments de cette nature-là. Donc, on a travaillé, c'était de la chromatographie. Donc, on s'est renseigné, qu'est-ce que c'est que la chromatographie? Des radios hein, de chromosomes. Donc, on a reproduit avec du verre émaillé des effets de chromatographie. On a fait ça sur différents bâtiments. Et on a eu la chance aussi de pouvoir travailler et d'échanger avec des fabricants, plus que des entreprises, hein, plus qu'avec le représentant d'un corps de métier, puisqu'on suit tous nos chantiers à l'agence. Donc on a eu la chance de travailler avec ou bien des fabricants de matériaux, ou bien des fois de travailler avec des compagnons qui connaissaient des mises en œuvre que nous n'imaginions pas. Donc là, c'est vraiment aussi très, très incrusté, je trouve, dans la lecture qu'on a d'une construction et de ce qu'on appelle l'architecture. Alors, ça a été sur, par exemple, le béton, hein, qui a tendance un petit peu à disparaître des façades actuellement, mais que c'était vraiment, on a eu des passions, Evine et moi, sur le béton et d'inventer des matrices. On a eu ça aussi sur la possibilité de concevoir des machines pour préfabriquer des moules de béton hein, avec des vérins, enfin des verres émaillés aussi, qu'on a mis au point avec des fabricants de verres. Quand on a travaillé sur un petit immeuble de bureau à Carnot qui est en béton, avec des gros agrégats, des gros cailloux.
Je vous interroge celui qui est à côté de la Tourlue.
Est à côté de la Tourlue. Mmh. Donc là aussi, hein, pour parler un petit peu de ce projet-là, c'est un projet qui s'inspire complètement du site constitué, puisque pourquoi des cailloux noirs? En fait, c'est à côté, il jouxte un... Il est mitoyé à un immeuble de faubourg qui est lui-même avec des pierres brutes de couleur très sombre et dans l'autre rue des murs très blancs et un boulevard qui était composé de fenêtres horizontales sur l'immeuble d'à côté et horizontales de l'autre. Donc, enfin, c'est la combinaison. Ça, c'est pour la réponse au site et je voulais revenir sur les cailloux d'où on est allé voir des préfabricants. Les préfabricants nous ont amenés à avoir des carriéristes, des gens qui triaient les cailloux, et on a choisi les cailloux dans la carrière. Donc c'est un aspect aussi, ces matériaux, cette mise en œuvre que je trouve très, très intéressante et qui fait complètement corps avec l'architecture.
Evelyne.
Un autre thème que l'on développe dans chaque projet, c'est tout le déroulement du parcours et la façon dont on va appréhender tout l'espace intérieur. Le parcours dans un projet, je dirais, c'est pas dans le projet en fait, c'est déjà en amont du projet, c'est quand on arrive sur le site, c'est déjà toute la mise en scène qu'on va voir de cette entrée. En fait, quel que soit le thème que l'on va développer de projet ou le programme que l'on va développer, que ce soit une salle de sport, un logement, un EHPAD, déjà il faut donner envie aux gens d'y entrer. C'est la première chose. Ensuite, donc pour nous, c'est vraiment le primordial, c'est déjà l'entrée dans le bâtiment, comment le traiter. Ensuite, c'est vrai que au-delà du programme qu'on va essayer, du programme fonctionnel qu'on va essayer de développer en étant plus proche des attentes du maître d'ouvrage et des utilisateurs, on va essayer toujours de leur faire découvrir autre chose, enfin d'apporter un peu plus que leur attente. En général, tout le monde nous demande... comme on dit tout à l'heure, aussi bien par rapport à l'inscription dans le site sur des programmes équivalents, on peut avoir des réponses complètement différentes. À l'intérieur d'un bâtiment, ça va être un peu le même raisonnement avec, en fonction des usages, on peut apporter des résolutions spatiales très étonnantes. Et on essaie toujours de créer de la surprise, c'est-à-dire qu'on va jouer des volumes hauts, bas, ou on va jouer aussi des teintes, de l'apport de la lumière, avec des jeux de sombre, de plus éclairé, de mettre en valeur certains éléments par rapport à d'autres. Et l'idée, en fait, c'est qu'en se déplaçant dans un bâtiment, que les gens, on leur crée de l'étonnement, de la surprise, et qu'on leur apporte un peu de rêve et qu'ils aient envie d'y rester. Et en fait, c'est vraiment à chaque fois, on se met toujours en situation en se disant, nous, est-ce qu'on aimerait vivre dans cet espace-là? Quand on crée du logement, on se dit, mais est-ce qu'on a envie d'y être? Quand on se crée une médiathèque, est-ce qu'on a envie de se poser ici? Et quand c'est un EHPAD, est-ce qu'on a envie d'y passer du temps? Et c'est toujours une question en rapport avec l'usager, vraiment avec l'humain, que l'on vient réinterroger à chaque fois dans tout le processus du projet.
Et en effet, moi qui ai regardé vos projets, il y a un service d'urgence qui est très ludique, où il y a de la couleur. Le choix ne devait pas être évident, mais c'est très réussi de l'intérieur, parce que ça joue avec la lumière. Et on se dit, ben voilà enfin un service d'urgence qui n'est pas glauque, parce qu'en général...
C'est vrai. C'est... On essaie justement de... Alors, ça fait partie d'une surprise, c'est-à-dire que quand on a fait des bâtiments, on travaille aussi sur des bâtiments hospitaliers, et souvent, dans un programme hospitalier, on va être peut-être assez frileux de s'attendre à certains endroits qui sont des endroits peut-être des fois un peu malheureux, on va dire. Nous, notre contrepartie est vraiment d'apporter
de la joie,
de la gaieté dans ces services-là. Mmh. Et c'est vrai que c'est surtout ça, mais c'est surtout, en fait, au-delà d'apporter de la joie ou de la gaieté, c'est d'apporter des surprises. C'est-à-dire quand on rentre, on est surpris. Et c'est là où ça attire, je dirais, l'usager, l'utilisateur et... Je crois que l'architecture, c'est ça, c'est apporter un peu du rêve et de la surprise. Voilà, on n'est pas que des constructeurs, nous sommes aussi des grands rêveurs et il faut le partager.
Ouais. Alors Raphaël, c'est un sacré questionnement. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de frugalité.
C'est sûr, pour l'histoire des projets, je pense qu'on a tous une façon un peu différente de l'aborder, mais ce qui se ressent un peu alors, sur les projets récents qu'on a faits, c'est une approche... un peu plus lié, je dirais, à la biodiversité, à l'environnement. Aujourd'hui, quand on regarde des implantations, on essaye vraiment de sauvegarder un maximum d'arbres sur la parcelle. Ça nous oblige à parfois revoir un peu les contraintes du projet. Donc ça, c'est des choses auxquelles je suis, moi, très, très attaché. Aussi, je pense, par mon parcours, j'apporte une dimension un peu plus urbaine à la conception, donc comment inclure le projet dans la ville, au niveau des accès, des entrées, des places. Donc aussi, on a une réflexion maintenant sur les espaces publics. C'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer à l'agence aussi avec le paysage. Ensuite, forcément, donc, l'environnement et la transition énergétique, ça impose, je pense, aussi de dépasser l'architecture par la vision de l'espace et aussi de s'intéresser à des choses beaucoup plus techniques, comme par exemple le fait de construire un bâtiment sans voile porteur qui permette après de pouvoir rendre le bâtiment réversible, de faire muter des espaces, de pouvoir faire une extension ou au contraire le reséparer facilement pour augmenter sa durée de vie. Et ça, c'est vrai que ça demande d'aller un peu au-delà du programme imposé par les maîtrises d'ouvrage et d'imaginer en fait des usages potentiels après l'utilisation du bâtiment. Et je pense que ça va vraiment de pair avec nous à l'agence, notre envie de générosité en fait dans les espaces et de proposer toujours des pistes en plus, des choses qui n'étaient peut-être pas attendues. Je pense notamment à un projet là qu'on a en construction, le lycée de Pontchâteau, où je dirais toute le flux intérieur des élèves se retrouve autour d'un préau bioclimatique qui était complètement hors programme et qu'on a vraiment proposé comme étant une façon, je dirais, assez joyeuse de pouvoir déjà boucler tous les flux des salles de classe et de pouvoir proposer un espace ouvert avec des escaliers ouverts où les étudiants peuvent se croiser, où ils peuvent échanger avec les professeurs. Et donc ça, c'est des espaces aussi bioclimatiques où on a une gestion de la chaleur du bâtiment qui vient se diffuser aussi dans ces espaces. Donc on n'a pas besoin de les chauffer, mais il y a quand même un confort qui est intrinsèque à l'architecture du lieu. Ensuite, il y a, je dirais, des thèmes qui sont peut-être un peu plus généraux, mais qui, moi, m'importent beaucoup. Donc, dans ce qui est le recyclage urbain composé avec l'existant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une espèce de frénésie un peu de développement. Et parfois, quand on regarde déjà ce qu'on a, notre patrimoine, ce qu'on peut sauvegarder, comment on peut peut-être travailler les projets de manière plus fine. Et c'est vrai qu'à l'agence, on a la chance de travailler sur des projets de réhabilitation, de restructuration, d'extension qui sont souvent plus complexes. Et d'ailleurs, les maîtrises d'ouvrage font souvent dire qu'il est plus simple de démolir le bâtiment et de reconstruire un neuf plutôt que de travailler avec l'existant, surtout quand on connaît les soucis d'amiante, etc., de durée de vie, des matériaux qui ont été employés avant. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment que les architectes se cassent la tête, parce que c'est vraiment important, c'est pas négligeable comme économie de ressources et d'énergie.
Bon, on entend que on pourrait peut-être résumer par cette formule de la pérennité et de la durabilité dans le mouvement.
C'est très beau. C'est
Comment est composée votre équipe?
Principalement d'architectes. de collaborateurs avec différentes compétences. Et c'est vrai que nous avons pour habitude de nous associer avec, en allant chercher à chaque fois les compétences différentes, qu'ils soient à chaque fois des bureaux d'études structures spécialisés dans le bois, ou des acousticiens, des paysagistes, ou parfois des techniques très particulières, très pointues sur certains domaines. Et on aime bien justement cette complémentarité pour nous associer avec des énergies différentes et surtout des bureaux d'études et des, ou même des confrères qui vont travailler, avoir une spécialité dans d'autres domaines. Et je trouve que c'est une richesse justement de pouvoir allier toutes ces compétences.
Nos collaborateurs sont tous architectes, mais ont vraiment des petites spécialités spécifiques à chacun. Donc, il y en a qui vont avoir des grandes sensibilités au paysage, connaître absolument tous les noms des plantes du dictionnaire. D'autres qui sont vraiment experts en BIM et encore d'autres en graphisme, en images. Et ça vient vraiment alimenter tous nos projets.
Juste une petite phrase sur notre équipe. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis quand même assez fier, étant passé dans différentes agences, c'est que chez nous, les gens ne sont pas sclérosés à une tâche. C'est-à-dire que très vite, si la personne est mordante, on va lui le mettre sur un chantier. Je crois qu'il faut fonctionner comme ça. En général, quelqu'un qui vient travailler chez nous, il va travailler sur du concours, il va travailler sur du développement de projet. Et puis, à un moment donné, on va l'accompagner. Hein, on ne le laisse pas tout seul sur un chantier. Donc, on va l'accompagner. Il va faire du chantier. C'est ce que je voulais rajouter.
Bon. Alors, comment imaginez-vous le monde de demain ?
Mais je peux commencer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées pour le monde de demain. Mais je pense que c'est surtout une énorme opportunité en fait, pour les jeunes, pour pouvoir repenser... énormément de systèmes établis, de choses qui sont peut-être déjà là, et vraiment de les transformer. Alors, j'ai énormément d'exemples en tête, mais en étant jeune, moi, quand j'étais étudiant, on habitait en coloc, donc voilà, pour les espaces en ville, les nouvelles opérations, il y a forcément des choses à faire avec le partage, ces idées de mutualisation, d'espace, de rendre les choses... plus appropriable par les gens pour partager tout un tas d'objets, d'espaces, de services et aussi avoir un monde peut-être, j'espère, plus vertueux, mais à l'échelle vraiment mondiale, dans le sens où aujourd'hui il y a des flux de matières, de matériaux qu'il faut vraiment réfléchir dans son ensemble. On est dans un monde globalisé et on ne peut pas dire qu'en réduisant nos émissions de carbone à l'échelle de la France, qui est déjà bien, c'est aussi de comprendre comment on peut réindustrialiser certains secteurs en reprenant le contrôle un peu de nos émissions. Et je pense que là-dessus, le monde de l'architecture a énormément à donner avec beaucoup d'alternatives en ce qui est du réemploi, du recyclage et aussi des alternatives en fait, à un monde qui est peut-être pensé par la croissance et peut-être d'avoir une autre vision de la croissance économique. Et moi, je suis presque un peu preneur de décroissance, mais plus vers des modèles, des indicateurs de développement qui seraient plus la qualité de vie, la préservation des écosystèmes, la réduction des inégalités ou l'accès à des services plus importants.
Peut-être être moins dépensier en énergie, en matière, revenir à du sens commun.
Je pense qu'on peut quand même, nous, notre métier, c'est de construire des choses. On peut le faire d'une manière intelligente et pérenne, et surtout qui s'inscrit dans un cycle vraiment un peu plus global.
Je crois que l'architecture a vraiment tout son rôle à prendre en main aujourd'hui, à apporter beaucoup de choses de réflexion sur justement tout ce qui est le bâtiment vertueux, les nouvelles énergies. Et on est qu'aux prémices et je pense qu'on a beaucoup à réfléchir là-dessus, à apporter justement de solutions techniques, sans oublier toutes les qualités spatiales d'un bâtiment, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier le sens de l'architecture au départ, qui doit quand même être là pour... abriter les gens, qu'on vive dedans, qu'on puisse évoluer.
Je suis d'accord.
Il ne faut pas l'oublier.
Ouais. À force d'avoir des leitmotifs comme ça et qui deviennent des formules de com.
C'est ça. Il ne faut pas oublier le sens premier de l'architecture qui est quand même d'habiter.
Comme tu le dis d'ailleurs, on a beau faire le bâtiment le plus écologique au monde.
Si personne n'y habite.
Et puis s'il n'est pas un peu architecturé, on ne s'en sent pas bien dedans. Donc forcément, c'est...
Je crois que c'est important de se sentir bien dans un lieu avant tout.
Oui. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Moi, je lui dirais d'être curieux, d'être toujours à l'écoute, de rester positif. Je crois que le positif est un outil très important pour l'architecte. Il y a toujours une solution. Il y aura toujours des résolutions. Et je crois qu'il faut beaucoup, souvent les architectes, on va défendre nos projets. Je crois qu'il faut arrêter de défendre les projets. Il faut tout simplement aller les expliquer et garder toujours le sens du projet. Voilà.
Alors un mot de la fin, peut-être Eric ?
Alors se renouveler, c'est aussi proche de ce que je souhaite qu'acquièrent les jeunes étudiants, se renouveler, que justement Grégory Evest et Raphaël Saillard nous aident à nous renouveler.
Voilà. Ouais, donc en fait, vous n'êtes pas prêts de décrocher.
Pas encore, non.
On va voir comment ça se passe. Je pense que c'est bien de faire que ça se passe dans un tuilage intelligemment. Nous, notre volonté, Evin et moi, c'était pas de dire bon, on vend la boîte, Raphaël, Grégory, est-ce que vous voulez la racheter? Je pense que c'était pas cet état d'esprit. L'état d'esprit, c'était de la transmission aussi, un petit peu. Et alors, imaginez la magie pour un parent que, déjà, c'est une première transmission à un enfant. Alors qu'en plus, cet enfant fasse le même métier très prenant que vous faites, voilà, c'est...
Je crois qu'au-delà de rêve. Ça, il y a l'attrait du projet et l'intérêt à faire ce métier. C'est un métier, en fait, qui n'est pas un métier qui s'arrête comme ça. Quand on est architecte, je crois qu'on l'a tout le temps dans la tête et on vit avec... Et je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter. Je crois qu'on est tout le temps dedans.
Oui. Voilà. Je vous entends très bien. Merci beaucoup pour
Merci
votre riche témoignage.
Merci.
Accueilli.
Merci.
Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.